Alors, on s'en va maintenant en Bolivie avec Frédéric Dubois. On va parler des mines artisanales ou des coopératives minières qui existent dans ce pays-là d'Amérique latine. Alors, l'industrie minière est assez importante en Bolivie. C'est un pays de montagne qui n'a pas d'accès à la mer, mais qui possède des gisements miniers de toutes sortes et de tous les temps. La principale exportation de la Bolivie, ça a été l'industrie minière. Et notre correspondant, Frédéric Dubois, qui séjourne présentement en Amérique latine et qui nous fera des reportages réguliers sur la situation là-bas, nous a parlé, tout juste avant l'émission, de la situation des mines artisanales en Bolivie. Frédéric Dubois, tu vas nous parler là des mines coopératives en Bolivie. On sait qu'en Bolivie, il y a beaucoup de ce genre de mines plutôt artisanales. Peux-tu nous expliquer dans quelle région tu te trouves et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux mines?
Oui, mais salut Roberto. En fait, je me trouve à La Paz, la capitale de la Bolivie actuellement. Et j'ai visité surtout le sud. J'arrive du sud de la Bolivie, dans l'état de Potosi, et j'ai aussi mis les pieds là, dans l'état d'Oruro, qui sont deux états vraiment très, très fortement dépendants des mines. Et donc, je me suis intéressé, j'ai essayé de creuser un peu la question des mines coopératives, effectivement.
Oui, et Frédéric, la région où tu te trouves actuellement, c'est une région où l'activité minière est très importante.
Oui, en fait, il s'agit d'un état de la Bolivie qui est très, très fortement minier, donc qui est essentiellement dépendant de l'étain, du zinc et de l'argent. On sait que dans le temps de la colonisation, il y avait même l'image où on disait que les Espagnols ont tellement sorti d'argent de la montagne du Cerro Rico, la montagne qui est adjacente à la ville de Potosi, qu'il serait possible de construire un pont tout en argent entre Potosi et Madrid. Donc vraiment une quantité énorme là d'argent qui a servi les coffres du roi d'Espagne à ce moment-là. Maintenant, il y a encore d'autres mines que les mines d'argent dans cet état-là, dont des mines de sel. Peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec le Salar de Uyuni, qui est un endroit assez touristique. Mais il y a aussi surtout l'étain. Qui est la matière là, qui encore aujourd'hui permet à cette région-là d'avoir une économie soi-disant fonctionnelle. Donc, dans la période entre les deux guerres, si on revient à cette période-là, il y a un personnage très important dans l'état de Potosi qui s'appelle Simon Patiño, qui est devenu le roi de l'étain. C'est quelqu'un qui était parti avec des moyens très, très très, très bas, et puis qui a monté et finalement construit un empire et est devenu le roi de l'étain. Et a remplacé en fait l'argent comme matière première là dans cet état-là. Paradoxalement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'état de Potosi, c'est un des états les plus pauvres de la Bolivie. Bolivie, un pays qui est déjà classé au 114e rang de l'index de développement humain selon les Nations Unies, ou si on regarde du côté de la Banque mondiale, c'est un des 15 pays pauvres les plus endettés. Donc, si on parle de Potosi en particulier, on parle d'une région extrêmement pauvre, même s'il existe des ressources très, 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 très fortes, comme je le disais, au niveau de l'argent et de l'étain. Maintenant, moi, j'ai visité surtout le Cerro Rico, qui est la montagne, comme je disais, adjacente à la ville de Potosi, et aussi une autre région plus au nord de l'état de Potosi, qui s'appelle Siglo 20, qui est une montagne adjacente à la ville de Yayagua. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'après la colonisation, puis aussi après les grandes exploitations par des grands propriétaires privés comme Simon Patiño, il y a eu une certaine réforme en 1952 ici en Bolivie, où le gouvernement de l'époque a décidé de nationaliser les mines. Donc, il est apparu en ce moment-là, en 52, la compagnie nationale de mines Comibol. Parallèlement à ça, il y a aussi une série de réformes, là, comme la réforme agraire, une réappropriation publique des ressources en général, dont le pétrole. Mais donc, apparaît en 52 cette entreprise d'État-là qui s'appelle Comibol, Corporation minière de Bolivie, et qui va fonctionner jusqu'en 1985-86. ça va permettre certains avancements, parce qu'il faut comprendre que dans le temps où il y avait une exploitation privée des mines, les conditions de travail étaient vraiment affreuses et on parle presque d'une situation d'esclavage. Donc avec l'arrivée de cette nationalisation-là, les emplois vont être de bien meilleure qualité, des conditions de travail relativement bonnes, avec des congés payés, des horaires fixes, aussi un travail beaucoup plus mécanisé, donc l'introduction de la technologie, une sécurité industrielle aussi, là, donc des équipements qui vont être fournis, les employés vont pouvoir se promener autrement que nu-pied, là, et il va y avoir aussi un effort de fait au niveau de la prospection, donc il va y avoir de nouvelles prospections qui vont être faites par cette entreprise publique-là, qui s'appelle Comibol. Mais ces avancements-là ne sont pas faits du jour au lendemain. Il faut bien comprendre qu'il y avait derrière ça des forces syndicales. Il y a un très, très fort syndicat qui s'appelle la Centrale ouvrière de Bolivie, qui a joué un rôle extrêmement important pour faire en sorte qu'il y ait des avancements au niveau des conditions de travail et aussi au niveau du syndicalisme. Par exemple, il y a eu dans la région où j'ai été à Siglo 20, une montagne très, très connue pour l'étain. Il y a eu la naissance du syndicalisme en Bolivie, donc avec le lancement d'idées beaucoup plus socialistes, aussi des nouveaux partis politiques qui sont nés à partir de là. Et ça a donné lieu, entre autres, à une université ouvrière là, dans cette ville-là de Siglo 20. Donc certains avancements comme ça qui ont été amenés par des syndicats très forts à cette époque-là. En 1985-86, cette compagnie publique-là et les syndicats sont mis de côté au profit d'une mesure de privatisation qui est mise de l'avant par nul autre que le demi-président González Sánchez de Lozada, qui était le président jusqu'à il y a un an en Bolivie, et qui est aussi connu sous le nom de Goni ou le Gringo, parce qu'il a été très peu apprécié dans ce pays, puisqu'il a mis en place toute une vague de privatisation et de libéralisation des mines, plongeant le pays dans une période là, de d'austérité, mais aussi se donnant à lui-même, s'octroyant à lui-même les réserves minières très, très importantes, si bien qu'aujourd'hui, Sánchez de Lozada, donc l'ancien président bolivien, est le plus grand propriétaire minier avec son entreprise Comsur, qui est une grande entreprise privée dans le sud du pays. Donc ça, c'est une forme de privatisation qui a eu lieu, mais dans cette vague de privatisation-là aussi, on voit l'apparition des mines coopératives. Donc c'est ça que j'ai plus été visiter dans l'État de Potosí. Donc on voit que la compagnie nationale auparavant est délaissée au profit de mines beaucoup plus petites et une multiplication de mines coopératives, donc artisanales, qui sont exploitées par, ça peut être 50 personnes ou ça peut être 1000 à 1500 associés qui se forment sous forme de coopérative.
Oui, mais comment s'est fait la transition là avec des mineurs de l'État vers les miniers des mines coopératives?
Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le décret de cet ancien président-là qui a été lancé en 85. Donc, on a dénationalisé complètement le secteur minier. Donc, on n'a pas eu le choix de créer d'autres formes. Tous ces travailleurs-là se sont retrouvés à la rue. On parle d'environ 30 000 travailleurs qui travaillaient pour la Comibol. On se retrouve du jour au lendemain à 10 000 travailleurs. Et ces travailleurs-là, pour faire vivre leur famille, s'installent carrément sur les entrées de mines. On appelle ça les entrées de mines où la compagnie d'État exploitait déjà des ressources. Et ils vont commencer à eux, artisanalement, commencer à sortir le minerai et à le commercialiser eux-mêmes, c'est-à-dire à aller dans les centres urbains et aller le vendre à des entreprises privées qui vont les commercialiser et les exporter éventuellement. Donc, du jour au lendemain, c'est un peu ça qui se forme et il y a aussi une loi qui vient appuyer cet effort-là, puisque l'État voit qu'il n'y a pas d'autres obligations avec les privatisations massives, il décide de faire une loi sur les coopératives, donc légalisant la situation de tous ces travailleurs-là clandestins. Donc, dans le cas particulier du Cerro Rico, la montagne près de la ville de Potosí, il y a actuellement environ 32 coopératives qui exploitent quelque chose comme 250 entrées de mines. Donc, sur un total de 100 coopératives dans l'ensemble du pays, environ 100 coopératives dans la Bolivie au total, Il y en a 32 qui sont seulement dans ce mont-là, cette montagne-là qui était auparavant la montagne reconnue pour l'argent. Maintenant, c'est beaucoup plus le zinc et l'étain qui est extrait. Et on emploie aussi des enfants dans ces mines-là. Il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent à l'intérieur des mines, ce qui auparavant, avec la compagnie d'État, est absolument interdit.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup de pression là, des multinationales qui veulent prendre le contrôle de ces mines-là artisanales?
Oui, il y a effectivement des multinationales qui s'intéressent à la situation de la Bolivie parce qu'il y a encore des réserves énormes dans certains endroits. Il y a eu beaucoup d'endroits qui n'ont pas été prospectés encore. On parle d'environ 10% qui a été prospecté dans l'ensemble de la Bolivie. Cependant, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises privées, de ce qu'on comprend avec les entrevues qu'on a faites sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui hésitent à rentrer en Bolivie à cause d'une instabilité juridique. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de au niveau de la terre, beaucoup de paysans et de miniers qui veulent reprendre de leurs droits. Qui veulent avoir les entrées de mines et pouvoir les exploiter eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui hésitent à investir pour l'instant. Cependant, dans l'orient du pays, dans le côté est de la Bolivie, il y a plusieurs compagnies brésiliennes qui sont déjà rentrées. Et il y a effectivement certains sites de compagnies multinationales qui exploitent en ce moment. Cependant, là, si je reviens un petit peu aux mines coopératives, contrairement aux multinationales ou à une compagnie d'État, si on veut, sont extrêmement vulnérables aux prix mondiaux. Donc, le prix de l'étain en ce moment est très, très haut. Donc, les mines coopératives peuvent continuer à travailler, mais ils sont extrêmement dépendants, ce qui fait qu'ils sont un petit peu aux prises avec les miettes de ce qui reste dans les mines, puis de essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir d'autres ressources à travers, par exemple, l'agriculture ou d'autres formes de travail. Ils sont pas propriétaires des mines, ils sont seulement concessionnaires des entrées de mines, ces coopératives-là. Et ce qui est très, très marquant en allant voir ces mines-là, c'est que l'idée coopérative, là, l'idéal du partage, de la solidarité entre les travailleurs, est presque absent. Donc, il y a très, très peu de partage. Beaucoup de coopératives, en fait, sont organisées par des groupes de travail, c'est-à-dire que 4 ou 5 hommes vont se mettre ensemble, ils vont aller exploiter une galerie dans une mine, ils vont essayer de sortir le minerai qu'ils peuvent, ils vont aller le vendre eux-mêmes pour une éventuelle commercialisation. Donc, c'est des ventes individuelles, il n'y a aucun rassemblement des ressources pour essayer d'avoir un pouvoir de négociation ou quoi. Et aussi, tous les travailleurs sont tenus eux-mêmes d'acheter leurs bottes, leurs lampes frontales, leurs casques, et ainsi de suite. Tout leur matériel qui est utilisé, tout est individualisé. Donc, on se retrouve vraiment avec une situation où le milieu coopératif arrive à peine à faire bénéficier les travailleurs là, de ce que pourrait être une coopérative réellement. Actuellement, dans un pays, la Bolivie, dont on parle de 8,8 millions d'habitants, il y a plus de 40 000 personnes en fait qui travaillent dans les mines coopératives. Donc si on compare ça au Chili, où là, pour répondre à ta question, Roberto, il y a beaucoup plus de multinationales là, qui sont dans le pays. Au Chili, il y a seulement 9 000 personnes qui travaillent dans les mines coopératives. Donc vraiment, on voit que l'emphase en Bolivie est dans ce secteur-là. C'est aussi 85% des emplois miniers en Bolivie sont attribuables aux mines artisanales, donc aux concessions, aux petites entreprises privées et aux coopératives. Puis ça représente aussi, juste pour donner un dernier chiffre, 27% de la production nationale en termes de minerais et d'exportation de ces minerais-là.
Frédéric Dubois, est-ce que ce réseau de mines-là, ça, c'est porteur d'un futur meilleur pour les Boliviens? Quelle est la pression qu'ils vivent avec les grandes mines industrielles?
J'ai rencontré il y a 2 personnes qui ont des vues totalement opposées par rapport au futur. Donc, peut-être en guise de conclusion, je pourrais citer l'ingénieur Silvio Orsolini, qui est un professeur à l'Université autonome Tomás Frias à Potosí. Et lui, il dit que ce que ça prend, c'est un investissement massif étranger, donc des compagnies multinationales qui rentrent et introduisent une nouvelle technologie, fassent bénéficier l'économie bolivienne de cette nouvelle technologie-là. Comme opposition, j'ai l'avis de Claudia Ricaldi Sanchez, qui est une travailleuse au Sucromine, au centre de promotion minier ici en Bolivie, et qui a travaillé beaucoup sur la question du travail travail infantile. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que non, ça ne prend pas des multinationales, ça prend au contraire une compagnie nationale très très forte qui va pouvoir jouer un rôle non seulement au niveau de l'économie, mais effectivement au niveau des emplois aussi, d'avoir une qualité d'emploi.
Frédéric Dubois, merci beaucoup.
Merci.
Alors, c'était notre correspondant en Amérique latine, Frédéric Dubois, qui nous parlait des mines artisanales et de la situation de ces dernières en Bolivie.